Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Comment, en 2015 en France, des bachelières qui veulent s'orienter vers l'informatique peuvent-elles en être découragées au lycée, au prétexte que ce n'est pas un métier pour les femmes? Pourquoi en 2020 ne dénombre-t-on que 18% de femmes dans les cursus d'ingénieurs dans l'Hexagone et seulement 3 femmes parmi les dirigeants des 120 plus grandes entreprises françaises? Pourquoi le monde nouveau des start-up, des incubateurs, des investisseurs de la French Tech est-il représenté par le magazine Capital, par un homme blanc, hétérosexuel d'une trentaine d'années, en jean foncé et chemise blanche? Des chiffres et des anecdotes dont s'est saisie notre invitée Anne-Marie Kermarek, chercheuse en informatique, cofondatrice de la start-up Mediego et aujourd'hui professeure à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'EPFL. Pour un livre en forme d'abécédaire, numérique, compté avec les femmes, chez Odile Jacob. Plus de 3 ans après MeToo, n'est-il pas temps de briser les stéréotypes, de démonter les préjugés, de provoquer un déclic de la société? Faut-il des quotas pour obtenir la parité? Pourquoi compter avec les femmes dans le numérique?
Les Russes ont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut! On ne peut pas justifier un programme spatial qui ne met rien dans l'espace.
Nous allons envoyer un homme dans l'espace.
Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère.
J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune.
Vous avez vos papiers?
NASA, monsieur l'agent.
Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient des...
Des femmes, il y en a beaucoup. Qui travaille au programme spatial.
Il faut une calculatrice pour l'aérospatial.
Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire.
Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte.
On n'a pas vidé ma corbeille.
Ah, pardon, je ne suis pas la femme de...
Vous devriez être ingénieur.
Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible.
J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible.
Le système de traitement de données IBM.
Nous devons apprendre à le programmer.
Bravo, chérie. Lui, c'est John Glenn.
Et vous faites quoi, la NASA?
Nous calculons vos trajectoires.
Sans les calculs, on n'irait pas bien loin.
Comment peux-tu tracer l'œil sur tous ces plans?
Égo en droit, ça veut dire que j'ai le droit de regarder la couleur que je veux.
La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie.
Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer,
je demande à assister à la réunion.
Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes.
Il faut reculer la ligne d'arrivée.
Vous devriez déjà nous remercier de vous éviter le chômage.
Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux.
Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez vous comme ça.
Les toilettes pour gens de couleur sont à 1500 mètres.
Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout.
Plus de 50 millions de personnes vont regarder le lancement.
John, l'IBM se trompe.
Faisons vérifier les calculs par les filles.
Mes filles sont prêtes, on y arrivera.
Colonel Glenn?
Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence.
Friendship 7 semble avoir subi une défaillance.
Il y a une vraie boule de feu dehors, il fait un peu chaud d'ailleurs.
C'est le combat d'une vie, mes amis.
Bonjour Anne-Marie Kermarek.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre la bande-annonce du film américain « Les figures de l'ombre » sorti en 2016. Le film raconte comment, dans l'Amérique ségrégationniste, 3 femmes afro-américaines, 3 scientifiques exceptionnelles ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale et de mettre l'astronaute John Glenn en orbite. Ces 3 femmes ont joué un rôle donc crucial dans l'épopée de la NASA et pourtant leur histoire était méconnue. Il était grand temps de les faire justement sortir de l'ombre.
Ah oui, oui, c'était un film très intéressant que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai regardé du reste avec ma fille de 18 ans. Je pense que c'est très bien que le cinéma s'empare de ce genre d'histoire un petit peu méconnue pour que les gens se rendent compte que les femmes ont eu un impact dans les mathématiques et dans les sciences de manière générale.
Alors, la première femme que vous avez voulu mettre en lumière dans votre livre « Numérique, compter avec les femmes », c'est la Britannique Ada Lovelace, premier programmeur ou plutôt programmeuse de tous les temps.
C'est exact. Alors moi, j'ai donc fait des études d'informatique et c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de Charles Babbage, qui était à l'origine de d'une machine qui était l'ancêtre de l'ordinateur. Et pour autant, on entendait assez peu parler d'Ada Lovelace. Alors, c'est plus le cas maintenant. Elle commence à être un petit peu connue et célébrée du reste. Et c'est vraiment une personne qui a joué un rôle majeur dans le domaine, qui s'est emparée de la machine de Babbage, qui a été la première, je dirais, à la programmer. Et avoir la possibilité de l'universalité d'un ordinateur, universalité que Alan Turing a vraiment définie quelques cent ans plus tard.
Et Ada Lovelace est morte à 36 ans sans avoir récolté les lauriers qu'elle méritait.
Ça, c'est sûr, hein, parce que de toute façon, les lauriers pour les femmes ont mis un peu de temps à être... Enfin, les femmes ont mis beaucoup de temps à être récompensées, en fait, pour ce qu'elles avaient fait, parce que c'était juste, pour reprendre le film, des figures de l'ombre, en fait. Hein. Alors, on en parle un peu plus maintenant, donc les choses changent petit à petit.
Alors, une autre femme d'exception, c'est l'américaine Grace Hopper, sacrée en 1969, et c'est authentique, j'ai vérifié l'appellation en anglais, homme de l'année en informatique. C'est la pionnière du codage.
Oui, alors, c'est vrai que c'était l'homme de l'année en informatique. D'ailleurs, apparemment, ça ne la choquait pas tellement, elle. Donc, c'est quelqu'un qui s'est mis dans les ordinateurs relativement rapidement, qui n'a pas pu entrer à Harvard parce qu'à l'époque, on n'embauchait pas de prof femme. Et c'est vrai qu'elle a eu un rôle très important en informatique puisque ça a été dans les premières à vouloir proposer ce qu'on appelle les langages de programmation de haut niveau, c'est-à-dire essayer d'avoir un langage qui permettait, proche de l'anglais, qui permettait de programmer les ordinateurs.
Et c'est elle aussi qui a curieusement popularisé la notion de bug.
Oui, alors c'est rigolo parce que c'est le mot bug en anglais, ça veut dire insecte. Et en fait, c'est la légende dit que comme c'est un insecte, une mythe en l'occurrence, qui avait abîmé les circuits, les cartes perforées, du coup, elle s'est, y a eu une erreur dans le programme et donc depuis, c'est un terme qu'on utilise tous tout le temps en informatique en tout cas pour lorsqu'il y a une erreur en fait dans nos programmes, qui n'a aujourd'hui évidemment plus rien à voir avec la présence d'insectes ou pas dans nos ordinateurs.
Anne-Marie Kermarek, qu'est-ce qui vous a donné envie de dresser ce que vous appelez joliment un petit état des lieux des amours compliqués entre les femmes et le numérique ?
Eh bien, ça fait quand même déjà moi 25 ans à peu près que je suis dans le monde académique en informatique. Et j'ai vu une très nette évolution au cours des années, c'est-à-dire qu'il y a 25 ans, bon, on se posait pas trop la question de savoir s'il y avait des hommes et des femmes. Puis petit à petit, j'ai vu les institutions, les entreprises, les gens, les chercheurs commencer à déplorer le manque de femmes dans la discipline. Et puis depuis quelques années, avec grand plaisir, je vois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont prises. Et donc c'est un sujet en tant que femme dans le milieu où j'ai souvent été la seule femme dans l'assemblée, en fait, m'intéresse, me tient à cœur, et j'ai très envie de voir un peu plus de jeunes filles s'intéresser à la discipline, d'autant qu'il n'y a pas de raison valable pour laquelle elles ne feraient pas. Donc, je me suis emparée de ce sujet qui est bien différent de ce que je fais habituellement, qui est d'écrire des articles scientifiques, et j'ai pris beaucoup de plaisir humblement à écrire cet état des lieux.
Est-ce que vous-même, vous avez parfois ressenti que le fait d'être une femme était un frein à votre carrière ?
C'est un bon exemple parce que vous m'auriez posé cette question il y a 5 ans, j'aurais dit non, j'ai jamais rien ressenti de tel. Sincèrement, j'ai eu une carrière, je pense pas qu'il était freiné du tout par ça. Cependant, j'ai eu quand même, si je me refais le film, j'ai quand même, ça n'a pas été transparent le fait que je sois une femme. En particulier, on est parfois moins pris au sérieux, on a parfois, on se sent un petit peu quand même en minorité. On a parfois en tant que femme, surtout quand on est jeune, un peu plus de mal à s'entendre, à se faire entendre dans les réunions ou à faire imposer ses idées. Donc, j'ai vraiment pas le sentiment d'en avoir souffert, mais il y a quand même Si je me refais le film, effectivement, il y a un certain nombre de fois où j'ai dû un peu plus me battre.
Vous deviez aussi prouver que vous étiez légitime à tel ou tel poste. Ça vous est arrivé, ça ?
Oui, ça a pu m'arriver. C'est-à-dire faire imposer ses idées dans un monde d'hommes quand on est une femme, c'est toujours un peu plus délicat parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, en fait, à s'imposer, donc malheureusement. Donc ça, c'est une chose. Après, l'autre chose qui est claire, c'est le regard aussi parfois de la société. Donc quand on veut réussir dans une carrière académique, ça veut dire, je parlerai pas de sacrifice, mais ça veut dire rester au laboratoire tard, travailler tard le soir, mettre ses enfants à la crèche à 3 mois, voilà. Et ça, on a un regard qui est encore un peu moins indulgent quand on est une femme que quand on est un homme.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Aller te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Angèle, balance ton quoi sur RFI autour de la question. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Kermarek qui signe Numérique, compter avec les femmes chez Odile Jacob. Anne-Marie, c'est vous qui avez choisi ce titre d'Angèle, pourquoi ?
Eh bien, parce que c'est un titre que j'aime bien. J'aime bien la fraîcheur du texte, si on puisse écrire
ainsi. Et son côté féministe.
Et son côté féministe. Je trouve que ça gêne. J'ai trouvé que c'était une chanson qui collait bien au
thème de l'émission.
Voilà, exactement.
Alors, vous le montrez dans votre livre, les stéréotypes et les préjugés, inconscients ou pas, ont la vie dure dans des secteurs qu'on aurait pourtant tendance à associer à la modernité, aux valeurs progressistes. Je veux parler de l'informatique, du numérique, des incubateurs, des start-up. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Alors, je pense que pour ce qui est de l'informatique, c'est quand même une branche, donc c'est une science qui est nouvelle, donc c'est pour ça qu'on déplore un petit peu qu'elle subisse ces stéréotypes, alors que c'est une science toute neuve. Ceci étant, c'est une branche des mathématiques, c'est issu quand même des mathématiques, et du coup, je pense qu'elle a souffert aussi des stéréotypes qui étaient déjà présents dans le secteur des mathématiques et des sciences dures de manière plus générale.
Mais quand vous parlez carrément de la sexiste deep tech, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un petit peu délibérément exagéré comme terme. C'est sexiste au sens où le stéréotype d'un entrepreneur, donc puisque j'ai passé quelques années à la fois comme entrepreneuse et à la fois j'étais aussi, je participais au board de la French Tech à Rennes. Malgré tout, le stéréotype d'un entrepreneur, c'est quand même un jeune homme dynamique, incisif, qui a envie de conquérir le monde. Et ça, c'est pas l'image d'une femme. Voire potentiellement plus âgée ou qui est moins assurée. Et quelque part, comme c'est à ça que s'attendent des investisseurs, que c'est à ça que s'attendent même des clients, eh bien du coup ça c'est inconsciemment des préjugés sur le fait que peut-être qu'une start-up qui va être dirigée par une femme va avoir moins de valeur ou va croître moins rapidement, alors même qu'il est avéré que les entreprises qui sont dirigées par des femmes ont souvent des reins plus solides. Peut-être que c'est pour une notion plus mesurée du risque, je ne sais pas, mais les statistiques sont là.
Et la Silicon Valley n'a pas été épargnée par les affaires de harcèlement sexuel avant même le mouvement MeToo.
C'est vrai, alors ça j'avoue, je l'ai un peu découvert à la lecture du livre d'Emily Chang qui s'appelle Brotopia. Et j'ai découvert effectivement un certain nombre de scandales. Donc moi j'avais entendu parler du scandale chez Uber, de cet ingénieur qui avait démissionné pour harcèlement. Et effectivement, j'y ai lu tout un tas d'histoires en tout genre, et ça n'a épargné personne, hein. Uber, LinkedIn, Amazon, Google, voilà. Alors après, j'avoue, moi, j'ai travaillé chez Microsoft Research pendant quelques années en Angleterre, j'ai jamais subi ce genre de choses, ni même j'en ai entendu parler. Mais apparemment, il y a des cas avérés qui ont été médiatisés, du reste, et c'était effectivement avant MeToo, mais c'est resté un peu plus confidentiel aussi parce que c'est des endroits qui sont extrêmement numériquement dominés par les hommes.
Et l'on découvre dans le livre d'Emily Chang que de nombreuses femmes dans la Silicon Valley devaient, au milieu de la journée, suivre leurs collègues masculins dans des clubs de striptease. C'est incroyable cette anecdote.
Alors ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup choquée parce que alors je sais pas si c'était quelque chose qui se faisait de manière hebdomadaire, mais en tout cas ça a pu arriver. C'est ce qu'on appelle les social events dans les entreprises ou team building ou ce genre de choses. Donc on fait une activité. Alors typiquement, moi j'ai tendance avec mes étudiants à aller faire du ski, mais dans la Silicon Valley, voilà, apparemment il n'est pas ça arrive que l'activité en question soit un club de striptease. Alors c'est extrêmement embarrassant pour les femmes parce que si elles y vont, c'est quand même pas un endroit nécessairement où elles ont très envie d'y aller, en particulier dans un groupe d'hommes en minorité. Si elles n'y vont pas, c'est se stigmatiser et puis ne pas participer à des événements sociaux dont on sait qu'ils sont très importants justement pour
l'évolution des carrières,
des carrières, etc. Donc c'est vraiment des événements qui sont très choquants de mon point de vue, quoi.
Alors depuis, les choses commencent à bouger dans la Silicon Valley. L'un des fondateurs de LinkedIn a proposé par exemple une charte de décence envers les femmes entrepreneuses. Donc ça, c'est un pas en avant, c'est un progrès quand même.
Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Je pense que les choses changent, heureusement. Et aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives, d'une part pour encourager les femmes et pour les soutenir. Et pour les protéger aussi. Donc je pense que ces multinationales qui ont eu des affaires de harcèlement sexuel n'en sont pas particulièrement fières et essayent justement d'améliorer les choses. Et je pense que voilà, il faut pas non plus jeter complètement la pierre sur toutes ces choses-là. Et c'est très bien qu'il y ait des initiatives de ce genre. Donc cette charte a été signée par une douzaine d'investisseurs de la Silicon Valley. Alors maintenant, est-ce que ils vont suivre à la lettre ou est-ce que les préjugés vont les rattraper? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout à fait une initiative louable et intéressante et qui, j'espère, fera progresser les choses.
À vous poser une question qui peut surprendre, l'intelligence artificielle est-elle sexiste? Vous rappelez que l'intelligence artificielle repose sur trois éléments essentiels, des algorithmes, des données et les capacités des ordinateurs. Alors, si on peut raisonnablement reconnaître la neutralité des ordinateurs pour les algorithmes et les données, là, c'est une toute autre histoire.
Oui, ben en fait, en intelligence artificielle, le principe de base, hein, c'est qu'on exploite les données du passé pour prédire celles de l'avenir. Donc, les données, on peut pas les changer, elles sont ce qu'elles sont. Et effectivement, si on vit dans une société qui est biaisée et où les données elles-mêmes sont biaisées, donc prends un exemple tout simple, hein, si vous faites un état des lieux de, par exemple, des carrières qu'occupent les métiers qu'occupent, les postes qu'occupent les hommes et les femmes, statistiquement, évidemment, vous allez trouver beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les milieux de développeurs en informatique, par exemple, ou de chercheurs. Eh bien, si on utilise ces données telles quelles, il est évident que si on veut prédire ou si on veut ce que va faire une femme, on va plutôt aller dans la direction que nous indiquent les données. Donc il faut être vigilant sur ces choses-là. Donc il y a un autre exemple qui est assez intéressant, c'est celui du chatbot de Tay de Microsoft qui avait été mis en place sur Twitter, donc qui était un algorithme hein, qui imitait une adolescente d'une adolescente en fait, et on s'est rendu compte assez rapidement, bon, elle a été attaquée, hein, le chatbot a été attaqué. On s'est rendu compte assez rapidement que comme elle utilisait des données du passé, et ben assez vite, quand elle a été emmenée par les attaquants en quelque sorte vers là, elle s'est mise à dire que les femmes étaient inférieures, à tenir des propos même racistes, etc. Donc on voit bien que si on utilise des données telles quelles, et ben on peut arriver à des justes. C'est même pas qu'elles sont sexistes, c'est juste qu'elles véhiculent les préjugés et les clichés qui sont présents dans la société. Donc l'avantage, donc ça c'est les données qu'on peut pas changer, on peut quand même les trier. Et l'avantage des algorithmes, c'est qu'on en fait quand même ce qu'on veut. Et donc je crois qu'il est important, et il commence à y avoir beaucoup de travaux sur justement l'éthique des algorithmes pour justement rattraper ces biais et en tout cas essayer de les corriger au mieux.
Parce que vous donniez aussi un autre exemple édifiant, les clichés reproduits par les algorithmes de reconnaissance d'images de Microsoft et Facebook.
Oui, alors ça, c'est presque encore un autre problème, c'est que 90% des développeurs en informatique sont des hommes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est informaticien ? On fait des tests souvent sur soi-même. Parce que c'est ça qu'on a sous la main, et voilà. Et donc, effectivement, il y a certains algorithmes de reconnaissance de faciale qui marchaient beaucoup mieux sur typiquement les hommes blancs que sur les femmes parce que justement ils avaient été plus entraînés sur ce type d'image.
Et donc c'est pour éviter ces algorithmes biaisés que la présence de femmes dans le secteur du numérique en plus grand nombre serait bienvenue.
Oui, je pense que déjà les femmes peuvent avoir un œil un petit peu différent sur cette notion de biais et donc avoir peut-être un petit peu plus de une envie de les corriger et puis juste parce qu'effectivement je pense que un algorithme quelque part c'est quelque chose d'un peu créatif et que si on y met qu'on ait une mixité aussi dans la conception des algorithmes me semble une bonne idée.
On évoquait tout à l'heure Ada Lovelace, autre femme de caractère, Marie Curie, à qui on doit la découverte du radium. Marie Curie, prix Nobel de physique en 1903 et prix Nobel de chimie en 1911.
J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une exceptionnelle valeur scientifique.
Mon intuition me dit qu'il existe un autre élément.
Vous croyez avoir découvert un nouvel élément ?
La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate.
Veuillez quitter mon laboratoire.
Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité. Notre découverte pourrait soigner le cancer.
C'est extraordinaire. Tu as changé le monde. Notre travail est en lice pour le Nobel. La nomination ne fait état que de mon nom.
Tu as volé mon génie. Comment oses-tu t'attribuer l'ovation ?
Tout ça est plus important que nous.
Tout ce qui m'intéressait, c'était la science. Il y en a qui disent que mon radium les rend malades.
On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature.
J'ai passé ma vie entière à essayer de comprendre l'impossible. C'est mon combat. Et je le remporterai.
La bande-annonce de Radioactive, film réalisé par Marjan Satrapi sur Marie Curie en 2019. Anne-Marie Kermarec, vous soulignez que Marie Curie est la seule femme à ce jour à avoir reçu deux prix Nobel, mais elle a aussi payé très cher sa célébrité. La presse de l'époque ne lui a fait aucun cadeau.
Oui, alors c'est vrai que déjà, donc c'est une femme évidemment exceptionnelle, hein, c'est vraiment, et c'est une des très rare figure féminine que quelqu'un dans la rue est capable de nommer comme scientifique, hein. Donc c'est suffisamment rare pour être souligné. Oui, donc déjà pour son premier prix Nobel, je veux dire, il avait d'abord été attribué à son mari et à Becquerel. Donc c'est son mari qui a dû insister pour qu'il y ait aussi son nom. Donc ça déjà, il y avait une petite injustice là. Bon, elle a été défendue, donc ça c'est bien. Et puis ensuite, effectivement, quand elle a eu son deuxième prix Nobel. C'est ce qu'on appelle un peu l'affaire Langevin qui a éclaté, c'est-à-dire qu'elle a eu une aventure sentimentale avec Langevin et qu'elle a dû subir effectivement une déferlante de la presse, au point que le comité Nobel lui a demandé de ne pas se déplacer, bon, ce qu'elle fera finalement, mais je sais pas. Alors ça, c'est pure supposition, mais je ne sais pas si on se serait autant défoulé si ça avait été un homme, en fait, quelque sorte, et qu'on aurait remis en cause sa présence pour la remise du prix.
Est-ce que des films comme Radioactive, qui valorisent le travail de cette géniale physicienne qui était Marie Curie, peuvent contribuer à éradiquer les clichés sur des femmes allergiques aux matières scientifiques ?
Ah bah j'espère, je pense que c'est vraiment, moi je trouve ça de manière générale, hein, je trouve que les films sur les personnages scientifiques sont super, hein. C'était aussi le cas de il y a eu un film sur Nash, il y a eu un film sur Turing, donc ça c'est super. Alors évidemment quand il s'agit de femmes c'est très bien, c'est qu'on parlait tout à l'heure des figures de l'ombre ou de ce film sur Marie Curie. Je pense que ça, voilà, c'est bien de mettre la lumière sur ces destins féminins scientifiques.
Mais en même temps vous dites que faire de ces femmes des rôles modèles, des héroïnes, peut être contre-productif. Pourquoi ?
Alors parce qu'en fait la notion de rôle modèle, donc je pense qu'elle est importante pour justement essayer d'attirer un petit peu les jeunes filles dans les sciences. Et en revanche, on a porté à mon attention, enfin dans certains groupes de travail dans lesquels j'étais justement sur le sujet, qu'il faut aussi faire attention à ce que ces rôles modèles restent accessibles. C'est-à-dire que si effectivement on donne aux jeunes filles comme modèle unique comme Marie Curie, bon, elles peuvent se dire, bon, s'il faut avoir deux prix Nobel pour faire quelque chose en science quand on est une femme, c'est un petit peu ambitieux, donc je vais même pas y aller parce que je vais jamais y arriver. Donc voilà. Donc il faut faire attention que à la fois c'est très bien de mettre en lumière des très grands destins scientifiques comme Marie Curie, comme Alan Turing, mais il faut aussi qu'il y ait des rôles modèles un peu plus accessibles dans lesquels les jeunes filles puissent se reconnaître.
Alors, chaque année, on voit des duos, des trios d'hommes recevoir des prix Nobel. En 2020, petite révolution, le Nobel de chimie est attribué pour la première fois à deux lauréates, l'américaine Jennifer Doudna et la française Emmanuelle Charpentier, pour la découverte de CRISPR-Cas9, des sortes de ciseaux génétiques qui permettent de couper, de remplacer ou de corriger un gène. Un outil extraordinaire, dont un usage dévoyé pourrait susciter l'inquiétude. La mise au point d'Emmanuelle Charpentier, elle était au micro de Frédéric Rivière.
En théorie, en effet, la technologie peut amener à des dérives, et cela a déjà été démontré il y a 2-3 ans avec une équipe chinoise qui avait utilisé la technologie pour créer des bébés avec une certaine caractéristique génétique. Maintenant, il y a beaucoup d'académies, de scientifiques et une communauté qui s'élève de façon très forte pour s'opposer à des utilisations de l'outil qui ne seraient pas désirées, comme la transformation humaine, si je puis dire. Mais en tout cas, une compréhension que la technologie est une technologie qui est une technologie à être utilisée pour à bon escient et au niveau médical et humain pour traiter des maladies ou pour prévenir des maladies, mais pas pour une transformation humaine. Surtout qu'en fait, cet outil moléculaire, peut-être que c'est un petit peu difficile à imaginer pour le public, mais ça provient d'une science qui est de comprendre comment les bactéries se défendent d'infections virales. C'est-à-dire que les bactéries peuvent être aussi infectées par des virus comme nous pouvons être infectés par des virus. Maintenant, je pense que les gens ont compris. Ouais. Et elles ont aussi un système immunitaire. Et CRISPR, c'est originellement un système immunitaire. Donc, c'est vraiment dans la recherche fondamentale. Et en effet, il est très important de soutenir la recherche fondamentale, la recherche en microbiologie, la recherche sur les bactéries, sur les virus. C'est essentiel parce qu'on a un peu du mal, nous, scientifiques un peu plus seniors, de motiver la jeunesse, de commencer la recherche, de continuer dans ce domaine, parce que ce n'est pas forcément facile. Donc, c'est vraiment un appel au gouvernement et aux toutes les organisations et fondations
à soutenir
qui sont impliquées dans le financement, à soutenir la recherche.
Anne-Marie Kermarec, on le voit, il n'y a aucune raison pour que des femmes ne puissent pas briller dans des domaines scientifiques. Alors, pour quelles raisons sont-elles si peu à opter pour cette voie? Elles ne se font pas assez confiance? Elles ont du mal à se projeter dans un monde qu'elles savent encore très masculin?
Oui, je pense que il y a un éventail de facteurs. Il y a d'abord effectivement les clichés sociétaux qui font que voilà, les métiers d'ingénieur c'est plutôt des métiers de femmes, les métiers de scientifiques aussi, voilà, aujourd'hui les étudiantes les jeunes filles ont tendance à se diriger en sciences vers la médecine ou quand elles font des sciences. Et puis de manière plus générale, pas forcément dans les carrières scientifiques, déjà au lycée. Ensuite, effectivement, les études scientifiques, hein, ce sont des études exigeantes. Ça, y a pas difficile. Hein. Donc, et l'élitisme est plutôt associé. On a plus tendance à proposer, être élitiste pour nos garçons que pour nos filles, malheureusement. Et donc, du coup, et la société de manière générale, hein, et résultat, effectivement, les filles peuvent se dire, si c'est difficile, et puis si en plus, c'est pas là-dedans qu'on me voit ou que la société me voit, ou je vais plutôt aller vers des métiers ou des études qui sont qui correspondent plus à ce que je veux faire. Ensuite, moi, j'avais ça vaut ce que ça vaut et statistiquement c'est très limité, mais j'avais un petit peu discuté avec des amis justement de mes enfants et c'est vrai que il y a un côté difficile aux études et elles se disent non, peut-être que je suis pas assez forte. Alors même qu'au lycée, les filles sont meilleures par exemple en maths que les garçons.
Et elles ont aussi du mal à se lancer dans la conquête du pouvoir, à devenir chef d'entreprise, patronne. Et les obstacles ne sont pas toujours forcément extérieurs. Les freins viennent aussi d'elles-mêmes.
Ah oui, ça c'est clair. Moi d'ailleurs, c'est vraiment, je vais dire, le sexisme, il est pas du tout, c'est pas l'apanage des hommes. Hein. Je pense que c'est les femmes elles-mêmes se mettent des freins. Et on le voit dans leur manière de monter leur carrière, de gérer leur carrière, dans la manière de faire des propositions. Elles ont beaucoup plus de mal à se sentir légitimes pour accéder à des postes de pouvoir. Et elles attendent beaucoup plus d'être sûres de leur dossier, par exemple, pour le faire. Donc il y a un côté aventurier ou en tout cas risqué qui est beaucoup plus associé aux hommes qu'aux femmes en fait.
Alors pour promouvoir les femmes dans le monde de l'entreprise, est-ce que les réseaux spécifiquement féminins qui se multiplient en ce moment sont une bonne solution selon vous ?
Alors je pense que oui, en particulier d'avoir des réseaux féminins. Moi j'ai fait partie de quelques-uns, c'est bien parce qu'on arrive à partager quand même nos états d'âme, nos difficultés potentielles, les solutions, etc. Mais de manière encore plus importante, c'est maintenant il y a des réseaux d'investisseurs par exemple qui visent vraiment à faire lever des fonds à des entreprises qui sont dirigées par des femmes. Et ça, c'est très important parce que, d'une part, ça leur laisse un peu plus de chance, parce qu'il est montré aussi, hein, c'est statistique, que les femmes entrepreneurs lèvent moins d'argent, font moins de levées de fonds, et quand elles en font, les montants sont moins élevés. Et l'expérience a aussi montré que quand il y a des femmes qui sont présentes dans les boards des investisseurs, les femmes lèvent plus d'argent. Donc, manifestement, la présence de femmes et leur envie justement de voir plus de femmes comme entrepreneurs a un impact non négligeable sur les levées de fonds.
Alors, aux États-Unis, pour attirer les étudiantes, hein, c'est ce que vous racontez, plusieurs universités ont décidé de revamper, entre guillemets, les cours ou les cursus d'informatique. C'est ce qui se passe à Berkeley, par exemple. Racontez-nous.
Oui, alors ça c'est encore un petit peu autre chose. C'est vraiment pour attirer les filles, je dirais, dans les cours d'informatique tout simplement, et pour être un peu moins associées aux clichés habituels du geek, de la programmation, du codage, etc. Il y a certains cours qui ont opté pour une vision un peu plus, je sais pas comment dire ça.
Plus ludique, mais séduisante.
Oui, voilà, un peu moins rébarbatif, je dirais, des cours d'informatique. Alors,
parce qu'il faut dire aussi comment s'appelle le cours, Beauty and Joy of Computing.
Voilà, donc je reste parfois un peu dubitative, mais en même temps, ça a marché. C'est-à-dire que, alors, il y avait à la fois le nom du cours et à la fois le contenu. Le contenu du cours, si j'ai bien compris, était de partir d'un problème sociétal particulier et après d'amener aux algorithmes, par exemple, qui en relevaient. Donc, je prends un exemple. Je ne sais pas si c'est le cas qu'ils ont utilisé, mais par exemple, si on s'intéresse aux algorithmes de recommandation, comment est-ce qu'on nous propose des posts sur le fil d'un réseau social ou ce qu'on nous propose comme film ou comme livre sur Amazon ou Netflix, eh bien, partir de ce genre de choses pour arriver à la partie algorithmique. Bon. Après, c'est pas pédagogiquement, c'est pas idiot non plus, hein, de montrer quelles sont les applications avant d'arriver dans les détails. Je sais pas si c'est une bonne chose à faire que finalement d'aller dans le sens des clichés, mais en même temps, ça a fonctionné.
Oui, parce qu'il s'agit tout de même d'un artifice, hein, on peut dire ça.
Exactement.
Un bel emballage.
C'est en tout cas, ouais, alors aussi peut-être une autre façon pédagogique, hein, d'aborder les choses. Donc ça, peut-être que ça a ses vertus également. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, pour les féministes, en tout cas, c'est un petit peu, on peut se dire, c'est quand même embrasser vraiment, franchement, les clichés et foncer dedans et puis les exploiter en quelque sorte.
Mais la fin peut justifier les moyens.
Parfois, c'est ce que je pense. Si on veut aller un peu plus vite, ouais.
Et le PFL, où vous enseignez en Suisse, a eu également une idée du même ordre ?
Oui, alors déjà, le PFL, il y a pas mal d'actions qui sont menées pour les jeunes filles, hein, où il y a des ateliers de codage, etc. Et puis, il y a aussi un master de Digital Humanities qui mélange également, qui a été proposé il y a quelques années par une collègue d'ailleurs, et qui mélange l'informatique avec justement des domaines plus humanities en fait. Et effectivement, ces cursus-là ont une petite tendance à être beaucoup plus mixtes.
Mesdames, mes femmes, prenons les armes, il est temps, usons de nos larmes. Aucun besoin de faire couler le sang, comme seuls savent le faire. Nous nous contenterons de ce simple chant. Sœurs, mes mères, aux femmes, soyons fiers.
fort. Point où les ruines aux forces sont belles et grandes. Nos ondes au monde en offrande.
Femme, c'était Camélia Jordana qui sera demain l'invitée de Pascal Paradou dans De Vive Voix à 14h30, heure de Paris, sur RFI. Anne-Marie Kirmarek, pour vous, l'éducation reste capitale pour lutter contre les stéréotypes. Est-ce que le genre des jouets, par exemple, a vraiment une influence sur le choix du métier qu'une fille choisira à l'adolescence ?
Alors, j'avoue que je ne sais pas si ça a vraiment un impact, mais quand même, les jouets aujourd'hui restent très genrés et on a quand même tendance à avoir des jouets qui sont plutôt dans le care, comme on dit en anglais, disons le soin à la personne. Voilà, on s'occupe des poupées, on leur donne à manger, on fait des choses comme ça quand on est une petite fille. Et les garçons, c'est plutôt des jeux de construction, ce genre de choses. Et c'est vrai que apparemment, il est assez clair que les jouets de construction ont un impact sur le développement cognitif des enfants. Donc, si on offre beaucoup plus des jouets de ce type à des garçons, ils vont développer des capacités de spatiales, par exemple, qui sont supérieures et potentiellement qui peuvent avoir un impact aussi dans les études ensuite.
Mais aujourd'hui, du moins dans les pays riches, les filles comme les garçons à la maison possèdent un ordinateur ou une tablette. Les établissements scolaires commencent également à en fournir aux élèves. Depuis l'an dernier, les sciences du numérique sont enseignées dans les lycées. Est-ce que tout cela va changer la vision qu'ont les femmes de ces métiers de l'informatique et du numérique ?
Alors j'espère, donc pour ce qui est effectivement des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, etc., je pense qu'aujourd'hui, il y a le même usage qui en est fait chez les filles et chez les garçons, donc ça c'est, enfin le même usage, disons, ils l'utilisent autant, après ils en font pas nécessairement le même usage. Moi j'avais eu un petit espoir avec les réseaux sociaux, parce que je m'étais dit quand même, s'il y a bien une chose où les filles sont aussi assez actives, ce sont les réseaux sociaux, elles vont rendre compte que c'est de l'informatique. Je ne sais pas si c'est très clair. Après, oui, l'éducation au lycée, ça c'est vraiment quelque chose qui était très important et pour lequel mes collègues de la Société informatique de France en particulier se sont beaucoup battus et sont arrivés à leur fin. Je dois dire malheureusement que c'est la première année là où cette option est proposée et c'est vrai qu'elle reste très très masculine parce que c'est vraiment les mêmes elles souffrent des mêmes travers que les mathématiques par exemple ou voire pire. Et donc c'est vrai que c'est assez peu féminin. Mais je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir amené au lycée. Plus tôt on enseignera l'informatique, plus tôt on aura une chance de rectifier le tir.
Mais il y a aussi des initiatives qui se multiplient un peu partout dans le monde pour renforcer la place des filles dans l'informatique donc, et leur faire découvrir le codage. Est-ce que vous avez constaté déjà les résultats de ces ateliers, de ces cours, de ces stages de codage qu'on trouve des États-Unis à la Finlande en passant par la France justement et la Suisse où vous enseignez aujourd'hui ?
Alors moi je suis évidemment extrêmement favorable à tout ça et je connais plein de collègues qui font beaucoup d'efforts en ce sens. J'espère que ça aura un impact. Après, vous dire aujourd'hui que j'en ai vu les fruits, ce serait mentir parce qu'on a encore qu'une faible proportion d'étudiantes. Mais je pense que ça ne peut que faire du bien de favoriser ce genre d'initiative.
Alors, il faut le rappeler, je vais redonner le chiffre. Globalement, les femmes sont présentes à 20% seulement dans le numérique et à 30% dans la recherche informatique. Mais en Asie, en Amérique du Sud, dans certains pays du Maghreb, comme la Tunisie et l'Algérie, l'informatique a la cote auprès des filles. Pourquoi ?
Alors ça, c'est une bonne question et je vous avoue que si on savait exactement pourquoi on pourrait peut-être adopter la même chose. Alors, je crois qu'il y a plusieurs facteurs dont certains sont pas nécessairement très édifiants, mais en particulier, je pense que dans certains pays du Maghreb, la réussite professionnelle prime sur les clichés. Et en fait, ce qui est important. C'est aussi mon expérience que je connais bien le Maghreb, c'est que faire des études, c'est important et peu importe, quelque part, les matières n'ont pas vraiment de genre. Donc ça, c'est ce que j'ai observé. Alors même que dans certains pays, il n'y a pas forcément une égalité parfaite au niveau des droits entre les hommes et les femmes. En Amérique du Sud et dans certains pays d'Asie, c'est malheureusement pour d'autres des aspects plutôt négatifs de l'informatique qui reste un métier où qu'on peut faire de chez soi, qui apporte une certaine liberté et qui permet justement aux femmes de rester à la maison. Donc ça, je ne sais pas si ça va dans le bon sens, mais en tout cas, il y a plus de femmes. Après, il y a aussi, de ce que j'ai lu, des études qui montrent que quand les filles avaient été forcées dans certains pays de suivre des enseignements, avaient moins le choix en fait, et avaient suivi exactement les mêmes enseignements scientifiques que les garçons, elles avaient une propension plus importante à suivre des études informatiques. Donc il y a encore une fois un éventail de facteurs dont il serait bien de tirer parti aussi pour chez nous, mais on n'a pas toujours les clés.
Anne-Marie Karmarek, la fin de l'émission approche. Que pensez-vous de la discrimination positive ? Est-ce qu'il faut en passer par les quotas pour parvenir à la parité ?
Alors, c'est quelque chose qui est très controversé. Hein. Moi-même, j'ai pas une idée très très arrêtée sur la question. Ceci étant, je ne peux que constater que ça a fonctionné dans certains secteurs, comme la politique. Ça a un petit peu fait lever des boucliers au moment où on a instauré ça. Mais finalement, ça a marché. Aujourd'hui, on se pose plus la question. Après, on n'est peut-être pas obligé d'aller au point des quotas, mais en tout cas, il faut être vraiment vigilant sur le fait que quand on a un vivier de un certain pourcentage de femmes qui, par exemple, candidatent pour un certain poste, eh bien que elles aient autant de chances que les hommes. Enfin voilà, trouver des méthodes pour que soit on puisse évaluer les candidatures féminines entre elles, ou les évaluer indépendamment des hommes, ou s'assurer en tout cas qu'aux diverses étapes du recrutement, on continue à garder la même proportion. Quoi.
Voilà. Alors, question subsidiaire, à la lettre S de votre livre abécédaire, on trouve le syndrome Queen Bee, suivi d'une question cash. Les femmes sont-elles des pestes entre elles ?
Alors, moi, j'entends très souvent ça, et je l'ai beaucoup entendu dans tout un tas de jurys, de comités, de choses, et ça a tendance à m'agacer, parce que je pense que ça a peut-être été vrai à certains moments, ça l'est plus aujourd'hui. Moi, je sens vraiment de la part des femmes un support, vraiment un grand support pour leurs collègues femmes et dans les comités de promotion, etc. aussi. Donc j'aurais tendance à penser que non. Et en plus, je pense qu'elles souffrent de la double peine, c'est-à-dire que quand des femmes disent se critiquent entre elles, vite on a tendance à les prendre pour des chippies. Alors que quand des hommes se critiquent entre eux, bah on pense qu'ils sont juste que c'est normal d'avoir un avis différent et de défendre son avis. Donc
et un mot sur oui, allez-y, terminez.
Pardon. Non, on n'a pas une perception complètement égalitaire, je dirais, des comportements agressifs entre les hommes et les femmes.
Et un mot sur le syndrome Queen Bee.
Ça a peut-être été vrai à une époque, encore une fois, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, une femme, elle va être plus dure avec une autre femme qu'avec un homme. C'est peut-être le cas, en tout cas, à une époque où les femmes devaient vraiment en baver pour arriver à certaines positions, et du coup, elles se disaient, il n'y a pas de raison que les autres n'en passent pas par là. Mais bon, moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt une construction de la société qu'une réalité, en tout cas aujourd'hui.
Merci beaucoup Anne-Marie Karmarek d'avoir été notre invitée. Votre livre « Numérique, compter avec les femmes » est paru chez Odile Jacob. Merci à Caroline Fillette qui m'a aidée à préparer cette émission et à Hugo Violas qui l'a réalisée. Lundi, vous retrouverez à ce micro Caroline Lachowski qui recevra Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, autour de la question « Comment plonger dans l'écume de l'espace-temps ?» D'ici là, portez-vous bien. Dans une minute, un nouveau journal sur RFI.
À l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles.